Ben merci d'être venus nombreux. Donc, j'ai vraiment un grand plaisir à accueillir Olivier Hammond dans ces rencontres, parce que je trouve que cette réflexion sur robustesse et performance, elle est à la fois très intéressante et vraiment au cœur de nos sujets. Et nous avons un invité surprise, puisque vous l'avez peut-être compris, mais nous avons organisé un certain nombre de séminaires. Donc, dans l'idée que sur les chemins de Cluny, d'autres débats ont lieu ailleurs. Et il se trouve qu'Olivier Hammond a fait un séminaire à Lyon. Et donc, Monsieur Grégory Doucet, maire de Lyon, va nous faire un micro-témoignage après l'intervention d'Olivier Hammond sur ce qui s'est dit dans ce séminaire et ce qu'il lui a parlé en tant qu'élu. Voilà. Donc, on va entendre Olivier Hammond pendant une petite demi-heure. Et ensuite, je donnerai la parole à Grégory Doucet. Et en fait, nous sommes très preneurs d'échanges avec la salle. Donc ensuite, nous pourrons faire circuler le micro. Merci.
Je prends ce micro, c'est bon, voilà, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là dans ce lieu un peu étonnant, qui est quand même qui naît des ruines. Hein, ça dit des choses peut-être pour nous aussi. Alors, en fait, peut-être pour démarrer, je vais vous raconter des petites histoires. J'étais contacté par un certain Étienne Elie, c'est un ingénieur de la Silicon Valley qui a travaillé pour Intel. Et donc, quand on a un ingénieur de la Silicon Valley qui vous contacte, en général, on est un peu méfiant. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un peu changé le regard. Et alors, bon, il me contacte et en fait, il me raconte un peu sa vie quand il était ingénieur chez Intel. Donc, il me raconte, par exemple, qu'il y a un employé un jour qui est venu avec une batte de baseball au bureau pour massacrer son manager à la batte de baseball. Donc là, c'est Tarantino, hein, mais sauf que c'est la réalité de ce qu'il a vu. Et il raconte aussi un cas d'un manager qui est arrivé en courant pour sa réunion, qui était en retard. Il était très content d'être arrivé à sa réunion, sauf qu'il avait laissé son bébé de quelques mois dans sa voiture en Californie. Donc ouais, vous imaginez le résultat. Ça, c'est ce qu'il a vu chez Intel. Et donc, quand il a vu tout ça, il a décidé de se faire virer d'Intel. Il a insisté auprès de ses patrons pour se faire virer. Et aujourd'hui, il a créé une association pour exfiltrer ses anciens collègues. Je cite son mot, hein, exfiltrer. Alors ça, voilà, première petite histoire. Une autre petite histoire, faut pas que je sois trop long, parce que j'ai bien une petite histoire. Une autre petite histoire, c'est la cyberattaque. Là, il y a une table ronde sur l'IA, donc il y a une petite dose de numérique quand même. Une cyberattaque en 2017, NotPetya, la Russie qui attaque l'Ukraine, qui crame tous les serveurs d'un logiciel de fiscalité des entreprises. Donc ça a un énorme impact sur les métros, les écoles, tout s'arrête. Et évidemment, ce virus informatique sort et va cramer les serveurs d'une boîte qui s'appelle Maersk, qui est le premier transporteur maritime international, 20% du transport mondial, vous voyez les gros conteneurs, la Maersk. Bon, ça, donc ça crame tous les serveurs de Copenhague et aussi les 150 centres Maersk dans le monde entier. Donc là, ils auraient dû faire faillite. Alors pourquoi n'ont-ils pas fait faillite? C'était 60 milliards de dollars la perte, donc c'était vraiment énorme. Pourquoi n'ont-ils pas fait faillite? Parce que le jour de l'infection, le Ghana avait une panne électrique. Et donc ils ont pu récupérer les données de Maersk dans le serveur d'Accra au Ghana, parce qu'il y a eu une panne électrique. Donc, vous voyez à quoi ça tient? En fait, ça, c'est une illustration, j'ai choisi, hein, mais une illustration du monde extrêmement fragile dans lequel on est, en termes de santé mentale, en termes de santé économique aussi. Je passe sur la santé écologique, parce que ça, vous connaissez assez très bien. On est dans un monde hyper fragile. Et en fait, quand on regarde bien, ce qui nous arrive là, c'est un monde qui est suroptimisé. On a mis l'accent sur la performance du matin au soir, on en parle tout le temps, c'est une valeur qui est devenue très positive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de performance, hein. C'est juste que c'est devenu un culte. Un culte, c'est vraiment, je pèse mes mots, c'est un culte. C'était un mot qu'on ne questionne plus. Si vous voyez le mot performance quelque part, ça sera toujours positif. Hein. La performance énergétique, la performance éducative, la performance pédagogique, tout ça, c'est toujours positif. Alors c'est ça que je voudrais un petit peu questionner, parce que la lecture du monde qu'on peut faire aujourd'hui, c'est plutôt un monde qui est en polycrise. Comme dit Davos, hein, la CIA, le GIEC, tout le monde le dit, hein, on rentre dans ce monde de la polycrise. Et pourquoi nous rentrons dans ce monde de la polycrise? Parce que nous avons mis le compas sur la performance. Quand on suroptimise les systèmes, quels qu'ils soient, ils cassent. La syndémie de Covid, hein, parce que c'était pas une pandémie, c'était une maladie du système. Le Covid, hein, le SARS-CoV-2, c'est un virus très banal, hein, qui a mis à plat toute l'économie mondiale. Bah, ça dit quand même des choses sur la fragilité de nos systèmes, quand même. Enfin, le même virus dans les années 60, on n'aurait pas confiné. Hein. Faut réaliser ça quand même. Hein. Bah, d'ailleurs, il y a eu la grippe de Hong Kong, on n'a pas confiné. Hein. Donc voilà. Bon, on est rentré dans ce mandat. Donc en fait, on a des indicateurs comme ça, un petit peu diffus, qui nous disent oui, là, on performe trop. Juste un petit dernier chiffre comme ça. Est-ce que vous savez combien de burn-out ont été déclarés en France en 2024? Alors la réponse, c'est 2,5 millions, 11% de la population active. Donc il y a quand même clairement... il y a un problème, quoi. Et alors, évidemment, et vous le savez bien, l'épidémie de burn-out des humains, ce n'est que la partie émergée d'un burn-out planétaire. C'est notre compas sur la performance qui est en train de tout brûler. C'est-à-dire qu'il y a des méga-feux, mais il y a aussi des méga-feux sociaux, il y a aussi des méga-feux mentaux. Alors comment on fait pour sortir de ça? C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on avait discuté à Lyon. Quand on regarde les mots qu'on a à disposition, en fait, on a une galerie de mots. Donc on a un lexique, on a un vocabulaire, on a la sobriété, on a la régénération, on a la résilience, on a des tas de mots comme ça, là, mais on n'a pas de grammaire. Donc en fait, si vous regardez bien, il y a une grammaire dans le monde actuellement, et cette grammaire, c'est la loi du marché. La loi du marché, c'est la loi de l'offre et la demande, et dans cette loi du marché, il y a du vocabulaire et il y a une grammaire. Et c'est pour ça que c'est un bulldozer idéologique, parce que ce vocabulaire est très bien articulé, il fait sens, dès qu'on a 3 ans, on sait ce que c'est que la loi de l'offre et la demande, il n'y a aucun problème, tout le monde l'a acquis. Sauf que, quand on réfléchit bien, et là je vais faire du Michel Serres dans le texte, la loi de l'offre et la demande, elle n'a aucun sens. Parce que la loi de l'offre et la demande, ce sont des humains qui s'échangent des biens et des services et qui font l'hypothèse d'une nature gratuite et illimitée. Et donc c'est plutôt une mauvaise hypothèse. Hein. Évidemment que la nature n'est ni gratuite ni illimitée, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine, ça n'a aucun sens. La vraie loi, c'est la loi des besoins et des ressources. La loi de la vie, la loi des besoins et des ressources. Quand vous pensez loi des besoins et des ressources, vous êtes obligé de penser toute interaction entre humains comme un ménage à trois avec un troisième partenaire qui est la nature, qui est le vivant, quoi. Enfin, un peu... Là, ça change tout. Alors, le problème, c'est qu'OK, on a cette loi des besoins et des ressources, qui est la loi de la vie. Hein. Enfin, là, je mets ma casquette de biologiste. C'est ce qu'on voit quand on analyse les systèmes vivants. C'est la loi des besoins et des ressources. Mais toujours pareil, on a toujours ce vocabulaire un peu flottant qui fait qu'on va dire des choses qui vont être un peu problématiques. On va peut-être faire de la sobriété, mais qui va faire des effets rebonds, et donc qui finalement va être contre-productif. On va vouloir faire de la performance pédagogique, mais si on fait de la performance pédagogique, en fait, c'est une forme de violence pédagogique. Donc, peut-être que ça va marcher pour certains, mais pas pour d'autres. Donc c'est toujours... C'est pas très bien articulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? En fait, ce que je peux mettre sur la table, et ce que nous pouvons mettre sur la table, c'est cette idée de juste endosser le fait scientifique et endosser ce qu'on observe. Nous sommes rentrés dans le monde fluctuant, dans le monde turbulent. C'est que si on prend les événements climatiques extrêmes, leur fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc nous sommes rentrés dans ce monde fluctuant. Et donc, je n'ai pas besoin de vous le redire, vous le savez très bien, que ce soit sur le plan social, géopolitique, économique, écologique, ça fluctue et ça va fluctuer de plus en plus. Ça, si on suit les rapports du GIEC et compagnie, ça va fluctuer de plus en plus au 21e siècle et on en prend pour 2 ou 3 siècles. On a tellement tout déréglé que ça va prendre vraiment beaucoup de temps à passer à autre chose, quoi. Donc, on va rentrer dans ce monde-là. Donc ça, c'est notre contexte, qui est très différent du contexte que l'on quitte. C'est que le niveau de fluctuation qu'on va vivre au XXIe siècle, les humains ne l'ont pas vécu depuis le dernier âge glaciaire. On a en gros 10 000 ans de cette relative stabilité climatique. Ce qu'on va vivre au XXIe siècle, ça va vraiment nous défriser. Vous avez des exemples. Le Pakistan, en 2022, la moitié, en image satellite, c'est bleu. Donc la moitié du pays est inondée. En 2021, l'Ouest canadien, c'est l'été, était à 50 degrés, au lieu d'être à 35. D'un seul coup, c'est la température moyenne de 2100 qui arrive. Vous voyez, c'est le long terme qui vient au présent. C'est ça, le monde fluctuant. Donc, c'est pas les moyennes qui vont nous intéresser, c'est les valeurs aberrantes. C'est l'écart type, pour un langage mathématique. C'est ça qui va vraiment nous impacter. Alors, pour l'instant, les valeurs aberrantes, ces grands événements extrêmes, ont plutôt tapé des endroits où il n'y a pas de gros enjeux politiques. Oui, l'Ouest canadien, le Pakistan. Mais si on avait un ouragan avec des vents à 400 km/h dans New York, alors là, les gratte-ciel tombent, là il y aura une réalisation. Je ne suis pas en train d'espérer ça, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'on est rentré dans le monde fluctuant, mais on ne le voit pas, parce que pour l'instant, ça n'a pas tapé dans des lieux de pouvoir. Mais ça peut arriver demain, hein, c'est ça le monde fluctuant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce monde fluctuant? Je vais finir par dire le mot. Dans un monde fluctuant, eh ben, il faut être robuste. Voilà, c'est tout bêtement la réponse, c'est le mot, hein, c'est le mot juste pour moi. La robustesse, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc si vous voulez, tous les êtres vivants sont robustes, donc c'est pour ça que c'est très pratique. Un arbre dans le vent, il est stable malgré les fluctuations, et puis un arbre, il est aussi capable de vivre avec une gelée hivernale, avec des sécheresses estivales, voire même la foudre. Ben ça, c'est viable malgré les fluctuations. Donc il est stable et viable malgré les fluctuations. La robustesse, hein, ça vient de robur, le chêne. Donc ouais, on est vraiment dedans. Donc ça, c'est la robustesse. Donc vous voyez, c'est très simple. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Comment on fait pour être robuste? Et là, c'est très éclairant de regarder ce que font les êtres vivants. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a en face de nous une réponse et un contre-modèle. En fait, ce qui fait que les êtres vivants parviennent à avoir tant de robustesse, c'est qu'ils ajoutent beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de jeu dans les rouages. Et c'est ça qui permet d'absorber les chocs et de créer un espace de viabilité dans lequel on peut se transformer. Et donc vivre et se transformer. Donc la robustesse, c'est un potentiel, si vous voulez, c'est une mise en capacité. Et donc ça c'est ça qui est si joyeux, hein, c'est la pulsion de vie, si vous voulez. La robustesse, c'est la pulsion de vie. Quand on prend soin de sa robustesse, le potentiel s'ouvre. Et donc là, on peut faire des projets, on peut se projeter dans le futur, on peut embarquer, si vous voulez. C'est plutôt joyeux, hein, la robustesse. Alors donc on est dans ce moment très simple, vous voyez, l'équation, le monde devient de plus en plus fluctuant, donc il faudra être de plus en plus robuste. Pour être plus robuste, il va falloir trouver un nouveau compromis avec la performance. C'est que, faut quand même, pour le nuancer, c'est pas qu'il y a zéro performance chez les êtres vivants, il y a des moments de performance. La lionne qui va chasser la gazelle va quand même prendre le chemin le plus court, hein. Oui, donc on peut considérer qu'elle est performante, mais c'est juste ce moment-là où elle est performante, hein. Vous savez, les lions, hein, ils dorment entre 16 et 20 heures chaque jour, hein. Donc en termes de performance, en termes de management, par exemple, ce serait pas extraordinaire, hein. C'est du Gaston Lagaffe XXL quand même. Bon, voilà. Mais tout est comme ça, hein. La photosynthèse, son rendement énergétique, c'est 1%, hein. Les plantes gâchent 99% d'énergie solaire. Donc, et tout ça, ça permet de gérer des fluctuations environnementales. Donc voilà, donc là, on a une petite leçon qui est toute simple, mais en fait, il me semble aussi qu'avec cette robustesse, on commence à avoir un début de grammaire. Donc je vais revenir sur le vocabulaire et la grammaire. Comment, quand on pense robustesse avant performance, vous voyez, déjà là, on articule. On donne le primat à la robustesse sur la performance. C'est-à-dire qu'on n'évacue pas la performance, on la met en second. Le critère de choix dans les projets, c'est d'abord la robustesse, ensuite la performance. Oui, comme c'est tout simple, hein, c'est vraiment juste un critère de choix. Est-ce que le projet que je suis en train de construire, est-ce qu'il est robuste pour lui-même et est-ce qu'il est au service de la robustesse des territoires? Ben, quand on pense comme ça, on a mieux compris ce que c'était que la régénération, par exemple. Et par exemple, si je prends une entreprise et qu'on lui dit il faudrait que tu deviennes une entreprise régénérative, je peux vous garantir que 99%, 98% peut-être des entreprises vont dire non, moi ça va bien, hein, j'essaie déjà de maintenir une économie, de payer mes salariés, je vais en plus faire des services écosystémiques de régénération du territoire. Alors, par contre, si vous dites à cette entreprise, alors là tu vas affronter des fluctuations, tu en affrontes déjà, donc il faut que tu soignes ta robustesse. Comment tu fais pour être robuste? Donc tu vas augmenter les marges de manœuvre à l'intérieur, mais il faut que tu sois au service de la robustesse de ton territoire. Sinon, tu n'es pas robuste. Enfin, pour vous donner un exemple très concret, c'est un architecte, hein, qui m'avait raconté ça. Vous construisez une maison très robuste, donc avec biosourcé, autonome en énergie, enfin le truc incroyable, quoi. Donc la maison, elle est vraiment très robuste. Et puis il y a une coulée de boue qui se passe dans le territoire. Bon, bah, cette maison, elle va tenir debout, hein, parce qu'elle est robuste. Mais sauf qu'elle elle va se retrouver toute seule dans un territoire dévasté, elle n'est plus robuste. Qui va habiter dans cette maison? Donc la robustesse, c'est dans les deux sens, en interne et en externe. Donc il faut prendre soin de sa robustesse pour être au service de la robustesse des territoires. Et bien, quand vous pensez comme ça, vous faites de la régénération. En fait, vous générez la régénération sans vous en rendre compte. Vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, on commence à articuler les choses. Quand on donne le primat à la robustesse sur la performance, on commence à faire de la régénération sans s'en rendre compte. Un autre exemple, la sobriété. Alors pareil, la sobriété, si vous demandez à des citoyens, alors peut-être pas dans cette salle, mais à des citoyens d'être sobres, bah réduire, ça embarque pas grand monde, quoi. Enfin, ce n'est pas une pulsion de vie, ça, réduire. On est plutôt en croissance, hein. Enfin, je veux dire en croissance, pas économique, hein. Je ne parle pas de la croissance du PIB, mais voilà, on est en croissance, on a envie d'apprendre des choses, voilà. Alors, si vous commencez par la sobriété, vous allez braquer. C'est le renoncement, c'est l'écologie punitive. Alors, comment on fait ? Ben, toujours pareil, si vous commencez par la robustesse, par exemple, vous allez faire des objets réparables. Ben, les objets réparables, ils ne sont pas sobres à la fabrication. Ils sont plus gros, il y a des gros boulons, il faut pouvoir les réparer, etc. Ben, donc, à la fabrication, ils ne sont pas sobres, mais parce qu'ils sont réparables, ben là, vous allez pouvoir les faire durer et les transmettre. Ça va générer de la sobriété. Donc, vous commencez par la robustesse, ça génère de la sobriété. Vous voyez, ça articule. Là, ça commence à être une grammaire. Ouais. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Et alors, ce qui est incroyable, et vous voyez à quel point c'est un moment culturel, hein, il va falloir dérailler du culte de la performance. Et je dis bien dérailler. C'est le bon verbe. Hein. C'est que la première chose à réaliser, c'est que nous sommes sur des rails idéologiques. On parlait de l'extrême droite tout à l'heure, c'est la même chose, hein. c'est un rail de l'hyper-performance, hein. Les ultra-performants, hein, c'est, voilà. Enfin, bref, je ne vais pas refaire la table ronde de tout à l'heure.
Non, mais peut-être pour donner un exemple qui est flagrant, et c'est vrai que vous venez de l'INRA, il me semble que les fermes en agriculture biologique, en agroécologie, sont des fermes qui justement ont travaillé la robustesse au détriment des 115 hectares qui seraient la performance.
Exactement. Alors, ce qui est extraordinaire avec la robustesse, c'est que, en fait, quand on fait de l'écologie, finalement, on fait déjà de la robustesse sans forcément utiliser le mot. Hein. Mais à la limite, on n'est pas obligé d'utiliser le mot robustesse. Ce qui est important, c'est surtout que ce soit de la robustesse, fonctionnellement. Et en effet, quand on fait de l'agroécologie, on ne cherche plus le rendement maximal, on cherche le rendement stable. Donc, ça veut dire qu'on remplace des dépendances externes, avec des engrais, des pesticides, des semences, par des productions locales. Donc, c'est la biodiversité, les services écosystémiques de la biodiversité locale qui remplacent les engrais et les pesticides. Ben, ça, c'est robuste. Ça ne dépend pas du prix du pétrole. Ça ne dépend pas de la géopolitique mondiale. Tout est sur le territoire et c'est en interaction avec d'autres territoires. Donc, c'est là aussi on peut avoir de la porosité entre lieux. Et en fait, ce que je voudrais vous dire avec cette histoire de performance et de robustesse, là, je vais un peu à 4000 à l'heure pour... peut-être je parle trop vite, mais j'aimerais bien qu'il y ait des questions et qu'on ait le temps de discuter
ensemble.
C'est très
performant, quoi.
C'est ça. Je suis une contradiction ambulante. je suis d'accord, je suis une contradiction ambulante, hein, mais c'est ma propre incohérence. Voilà.
Alors que nous, pas du tout.
Oui. Mais ce que j'aurais à dire surtout, en fait, c'est que donc c'est un moment culturel. Donc nous sommes en train de dérailler du culte de la performance. Ça fait grosso modo 10 000 ans, hein, depuis qu'on a inventé l'agriculture, finalement, hein, qu'on a décidé de sécuriser la prise alimentaire avec l'option performante. Et après, ça ne s'est pas arrangé. Hein, les plantations, la colonisation, la mécanisation, la grande accélération depuis les années 50, c'est une course vers la performance. Et aujourd'hui, on arrive au burn-out. C'est la fin. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, aujourd'hui, là, enfin octobre, là, c'est parfait, hein, octobre 2025, shutdown aux États-Unis, neige ouane en Chine, hein, blocage économique, on n'a pas de gouvernement, enfin, on peut considérer qu'on n'a pas de gouvernement, on n'a pas vraiment de parlement non plus. Donc, on est vraiment dans un blocage complet. Donc, on arrive, là, c'est un burn-out démocratique aussi. Donc, on est vraiment dans un moment comme ça, là. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, c'est ce moment culturel, là, où si on commence à articuler et à voir, en fait, une contre-grammaire. Mais oui, une contre-grammaire qui est non violente. C'est que c'est une contre-grammaire terrestre. Donc si on prend la loi des besoins et des ressources, c'est la loi de la vie sur Terre. Et dans cette loi des besoins et des ressources, pour l'articuler, la robustesse, c'est un premier critère de choix dans les décisions. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on bascule du primat donné à la performance au primat donné à la robustesse, l'impossible devient possible. C'est ça qui est incroyable. C'est que l'impossible reste impossible quand on reste sur les rails de la performance nécessairement positive. Donc, par exemple, si je vous dis qu'on va, pour reverdir les déserts du Sahara, on va transformer le sable en eau. Bon, bah, ça paraît quand même un peu impossible. Hein. Enfin, ouais. Pourtant, c'est ce qu'on fait. La méthode des demi-lunes, c'est de faire des petites dunes, 50 cm de haut, ça condense de l'eau tous les matins. Et bien ça, c'est très robuste. Il n'y a pas besoin de dessaler de l'eau de mer, d'arroser des déserts, etc. Ça va faire de l'eau qui va s'accumuler très lentement. Hein. Ce n'est pas performant. Hein. Ce n'est pas comme un tuyau d'arrosage. Hein. C'est moins performant, très, très clairement, mais c'est robuste. Ça ne demande aucun entretien. Une fois que vous avez fait votre dune, ça va reverdir le désert. Bah, ça, c'est de l'impossible qui devient possible. Un autre exemple, c'est si je vous dis j'aimerais bien que dans le monde futur, les objets de luxe, donc c'est vraiment ceux qui sont les plus qualitatifs, soient au prix le plus bas. Bon, ça paraît impossible hein, dans la loi de l'offre et la demande. Hein. Bah, dans la loi des besoins et des ressources, évidemment que c'est ça qui se passe. Donc si vous pensez à l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, bah, les biens en commun qui viennent de s'ouvrir à Lyon, les bibliothèques d'objets, bah, si votre perceuse, là, c'est pas votre perceuse, c'est une perceuse partagée. Vu qu'elle est partagée, il vaut mieux qu'elle soit robuste, parce qu'elle va prendre plein de mains, elle va tourner à peu près 24 heures sur 24, enfin, peut-être pas 24 heures sur 24, mais très souvent quand même. Donc elle est très utilisée, donc ça sera une perceuse de luxe. Et ben, vous aurez accès à votre perceuse de luxe tout le temps pour 1 euro. Voilà. Ben, c'est pareil pour les voitures partagées, c'est pareil pour les ludothèques, les bibliothèques, c'est tout ça. Quoi. Et donc en fait, le monde, c'est incroyable, c'est que le monde robuste, il est déjà là. En fait, on est bien mieux équipé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Hein. C'est ça aussi hein, qu'il faut réaliser. C'est qu'on, enfin, moi, je suis assez pour arrêter de faire des plans pour 2050, 2070 et tout ça. Hein. Enfin, en général, quand on fait des plans pour 2050, hein, en gros, on ne fait rien jusqu'en 2049. Et puis en 2049, on panique. Alors, ce qui est plus intéressant, hein, c'est de juste réaliser qu'on a déjà basculé. On est déjà dans le monde robuste. Si on doit donner une date, hein, c'est entre 2010 et 2020. C'est là où les projets qui étaient très marginaux, qui étaient vraiment très loin, hein, Pierre Rabhi, et, tout ça, et en fait qui ont fait école, hein, c'est qu'en fait entre 2010, on sort d'une crise financière, 2020 c'est la crise sanitaire, et quand vous regardez entre les deux, c'est là qu'il y a énormément d'initiatives, l'économie de la fonctionnalité, l'agroécologie, qui se développe beaucoup. Hein. C'est toujours minoritaire, hein, faut pas, voilà, c'est minoritaire, mais c'est là où ça monte. Et en fait, depuis 2020, on peut considérer que le monde, enfin le culte de la performance est zombie. Il est mort, il est mort. Et d'ailleurs, il est incarné par des personnes qui sont obsédées par la mort. Donc vraiment, moi je vous invite à ringardiser la performance. Ça, c'est une méthode de lutte sociale qui est extrêmement pertinente, qui est joyeuse aussi. Hein. La satire du culte de la performance, il est énorme. Parce que quand vous prenez bah, les Poutine, les Netanyahou, les Musk, les Sterrin, et ça, ils sont fascinés par des projets de mort. C'est-à-dire qu'ils veulent déménager sur une autre planète, qui est morte, il veut faire des tombeaux, hein, c'est ce qu'on appelle des bunkers, hein, c'est des tombeaux, hein. Faire des villes dans le désert saoudien, enfin, c'est que des projets de mort. Quoi, hein. Sam Altman, il veut que sa mémoire soit dans une IA. Les machines sont mortes. Hein. Vous savez, l'invulnérabilité, c'est quand est-ce qu'on est invulnérable ? Bah, c'est quand on est mort. Iron Man, c'est un sarcophage volant, hein. Enfin, faut quand même le dire. Quoi. C'est ça qui est... Et donc, quand on a bien compris ça, bah, la robustesse, on comprend que c'est rester sur Terre, vivre avec les fluctuations. C'est ce que font tous les êtres vivants. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que nous, société humaine, économie humaine, tout ça, on ne fasse pas ça. Et donc, voilà, parce que ça serait peut-être mon appel, hein, fidèlement. Hein. C'est ça, c'est de changer cette culture. Si vous donnez le primat à la robustesse, alors il va se passer quelque chose d'assez incroyable, c'est que ça va produire de la santé commune. Voilà, si je vais jusqu'au bout de la grammaire, la santé commune, c'est quand on a compris qu'on a inversé la place du modèle économique. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait des projets, donc avec la loi de l'offre et la demande, on pense que tout projet est contraint par le modèle économique. Donc en fait, l'économie, c'est la contrainte d'entrée. Et donc si on a un beau modèle économique, on pense que ça va faire du lien social et du soin à l'environnement. Alors ça, c'est de la pensée magique. Il n'y a absolument aucune raison que l'économie fasse du lien social ou prenne soin de l'environnement. C'est de la pensée magique. En fait, tout simplement parce que l'économie, hein, c'est une abstraction mathématique du monde. Elle n'a absolument aucun agenda pour le social ou pour l'environnement. C'est juste l'économie. En fait, pourquoi il y a quand même un peu de lien social et un peu de soin à l'environnement dans notre économie actuelle ? Bah, c'est du ruissellement. Mais le ruissellement qui vient des ressources. C'est-à-dire qu'on est assis sur encore beaucoup de ressources. Et donc, il y a une petite partie qui part dans le lien social et dans l'environnement. Mais tout petit. Le 1% pour la planète calculait que c'était 0,25% des donateurs hein, où ça arrivait finalement aux soins à l'environnement. 0,25%. Donc, c'est extrêmement faible. Hein, quand même. Donc, comment on inverse tout ça ? Bah, voilà. Donc, si on pense robustesse, on a compris que notre monde était fluctuant. Et donc l'abondance des ressources, bah, c'était juste pas vrai. Il n'y a pas abondance des ressources. On est plutôt dans un monde où il y a des pénuries chroniques de ressources. Il y a des fluctuations, il y a des arrêts. Voilà, il y a des pénuries de moutarde en 2022. Il y a la Chine qui est en train de taxer les terres rares. Donc il va y avoir des pénuries massives dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc dans un monde en pénurie, que ce soit des pénuries de bois, hein, d'animaux, enfin tout ça, quoi, hein, d'effondrement de la biodiversité, eh ben, la première chose à faire, c'est de prendre soin des milieux naturels. Donc la fondation de tout projet, c'est la santé des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, évidemment qu'on le fait collégialement, collectivement. Bah ça crée du lien social. S'il y a du lien social, alors ça crée des expertises. Bah ces expertises vont créer des modèles économiques. Et donc là, c'est plus de la pensée magique. Ça, c'est de la pensée systémique. On atterrit, comme dirait Bruno Latour. On atterrit, on prend soin des milieux naturels, ça crée du lien social, le lien social crée des modèles économiques. Et donc l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et donc c'est un peu ça la santé commune, c'est les trois santé, santé des milieux naturels, santé sociale, santé des humains, interdépendantes de façon hiérarchique. C'est d'abord la santé des milieux naturels qui permet la santé sociale, qui permet la santé des humains. Et ça, donc ça permet un petit peu de sortir du, peut-être du One Health qui parfois est un peu mal fagoté. Là, c'est hiérarchique. C'est pas juste trois santé en interdépendance, c'est, enfin, trois santé un peu dans trois cercles distincts. Elles sont interdépendantes, elles dépendent l'une de l'autre. Quoi. 5 minutes. Et ben alors, mais je vais peut-être. Parce que faut. Je vais assez long.
Moi, je préfère t'écouter, Olivier. Tu
sais. D'accord. Alors, avec cette histoire de santé commune, en fait, ça peut se décliner. Je vais continuer. Ça peut se décliner dans plein de domaines. Alors, il y a, quand on parlait de l'agroécologie, par exemple. Quand on fait de l'agroécologie, on remplace la dette par une dépense évitée. Oui, c'est tous des mots là qui sont très, qui mettent en mouvement. Oui, si on dit faut lutter contre la dette, la dette elle est là. Non, on va plutôt faire des dépenses évitées. Si vous investissez dans l'agroécologie, vous aurez moins de dépenses de santé, vous aurez moins de dépenses liées aux déserts sociaux, etc. Ça c'est de la dépense évitée. Mais c'est plein de choses qui changent. Le client, par exemple, le client dans le monde de la performance, hein, c'est nous. Nous sommes tous des clients, toutes et toutes des clients. Le monde de la performance crée une société de consommateurs passifs. Qui ne votent plus, qui ne s'engagent plus, qui ne vont plus dans les activités culturelles. Dans un monde robuste, évidemment que tout le monde doit s'y mettre, donc le client, hein, le consommateur, devient plutôt un coopérateur, devient un acteur. C'est beaucoup plus joyeux, de nouveau. Hein, on remplace l'abondance matérielle par l'abondance des interactions, puisqu'il n'y a plus d'abondance matérielle. En fait, vraiment, on passe du parasitisme à la symbiose. Oui, donc, c'est tous les mots qui changent. Hein. Donc, voilà, le client devient un coopérateur. Le décideur, ça devient un facilitateur, une facilitatrice. Le financier, ça devient un assureur. Oui, parce que si je prends un financier, ce qui est un peu un gros mot, hein, le financier, c'est quelqu'un qui investit dans des projets. Si on rentre dans un monde fluctuant, il ne va plus investir dans des projets qui n'ont pas des garanties de robustesse. Donc, il devient un assureur. Oui, c'est tout qui change. Hein. C'est vraiment transversal. Et donc, c'est un changement culturel. Une fois qu'on a acté ça, alors je peux vous faire un petit témoignage, je vais peut-être terminer là-dessus, personnel, c'est que j'en parle depuis à peu près 10 ans, hein, de cette histoire de robustesse. Alors, avant le Covid, à vrai dire, je prêchais vraiment dans le désert. Hein. Et alors, notamment auprès des entreprises, on me dit, oui, bon, il est bien gentil avec sa robustesse biologique, mais l'économie, c'est différent. Et puis, bon, Covid, là, le monde suroptimisé a explosé en vol. Et donc, il a bien montré que ça ne marchait plus. Quoi. Je vous parle sur les burn-out et compagnie. Donc, depuis 2020, quand je parle de robustesse, je me rends compte qu'il y a une écoute dans le monde économique et des personnes qui seraient jamais venues ici hein, et qui pourtant se disent en fait, ça va bien falloir que je prenne soin de ma robustesse, quoi, parce que ça va tanguer de plus en plus fort. Et puis, ils le voient, ça tangue chez eux aussi. Quoi. Donc, cette robustesse, ça peut être aussi une porte d'entrée pour élargir le cercle, pour rendre cette communauté plus poreuse. Pour en fait, plutôt que de créer un oasis écologique, qui est un petit paradis sur Terre, mais qui crée des déserts autour, l'enjeu, c'est plus ça, hein, c'est de monter en échelle. Hein, c'est vraiment de dire, on a une clé de lecture du monde qui est très viable, enfin qui est viable d'ailleurs, juste viable, et qui est désirable. Qui ne veut pas être robuste ? La robustesse, hein, c'est durer et transmettre. Ça, c'est une pulsion humaine profonde, c'est la vie, voilà. Durer et transmettre. Donc, quand vous mettez la robustesse sur la table, les gens vous écoutent. En fait, je vais vous donner petite équation. Hein. Vous commencez par le monde fluctuant. Donc, vous ne démarrez pas avec la crise écologique. Non, le monde fluctuant. Géopolitiquement, ça fluctue socialement, ça fluctue économiquement. Là, tout le monde vous écoute. Si ça fluctue, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être robuste. C'est par définition, il faut être robuste. Comment on fait de la robustesse ? Il faut regarder les collectifs de citoyens, les entreprises, les associations, les territoires qui font déjà de la robustesse. Comment ça marche chez eux ? En général, ils développent des solutions socio-écologiques. Et là, vous allez faire rentrer des personnes qui sont peut-être de droite, qui sont de n'importe quel bord finalement, qui vont commencer à s'intéresser à ces solutions très créatives, très ouvertes, qui sont viables. Et donc, ça vous permet, là aussi, un dernier mot, c'est de vous réapproprier, de nous réapproprier le mot de sécurité. La sécurité a été complètement récupérée par la droite et l'extrême droite, et le centre, qui est un peu dans la même mouvance, l'extrême-centre, on pourrait dire, comme Pierre Senet, je dirais. Donc la sécurité, en fait, c'est pas une doctrine sécuritaire qui crée de l'insécurité, qui crée de la paranoïa. Ça, c'est la sécurité en version droite-extrême-droite. La sécurité, pour nous, c'est tout simplement la sécurité, c'est la viabilité du territoire. Si vous êtes dans un territoire viable, alors vous vous sentez en sécurité, et à vrai dire, la sécurité devient de la sérénité. C'est très apaisé. Et ça, en fait, ça, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle lutte frontale. Et peut-être un petit mot pour clôturer, je vais citer Michel Serres, je vais mettre ma casquette ainsi du Michel Serres. Michel Serres, il disait « L'utopie n'existe pas, c'est juste qu'elle n'a pas encore trouvé son lieu. » Voilà, il y a à nous de jouer. Quoi.
Merci, merci beaucoup Olivier Hamon. Alors, un témoignage de Grégory Doucet, oui, un retour.
Rapidement, parce qu'à chaque fois que j'entends Olivier, j'ai envie de partager plein de choses aussi, et surtout de l'interpeller en disant, mais là, est-ce qu'on fait vraiment de la robustesse, d'après toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. C'est vrai qu'on s'est vu il y a quelques semaines autour de cette question de la santé commune. Et bon, il se trouve qu'à Lyon, on a depuis le début du mandat pensé nos politiques publiques en ayant ce prisme d'une seule santé, le One Health de l'OMS en tête, ce qui nous a amené à faire plusieurs choses, qui nous a amené par exemple déjà à fixer à chaque politique publique des objectifs en santé. Quand on fait de l'éducation, on fait de la santé. Quand on fait de la culture, on fait de la santé. Quand on fait du sport, on fait de la santé. Alors, il y a certaines politiques publiques pour lesquelles c'est assez évident. Quand je dis nature en ville, santé, bon, bah, les gens font le lien. Mais c'est pas toujours direct le lien quand on parle d'éducation, par exemple. Ben si, parce qu'on fait aussi de l'éducation à la santé au travers de notre projet éducatif de territoire, par exemple. Donc, on peut mettre la santé dans toutes nos politiques publiques. Donc, première chose, on la met partout. Deuxième chose, le One Health de l'OMS, c'est comment est-ce qu'on fait dialoguer les disciplines, les acteurs, donc action de coordination, on fait croiser les disciplines, les chercheurs en sciences dures rencontrent les sociologues, les anthropologues, etc. pour faire émerger des pratiques. Et puis, de manière encore plus concrète, on crée dans notre contrat local de santé qu'on a conçu en associant une quarantaine d'acteurs locaux qui sont pas tous des acteurs de la santé et du soin, eh bien on conçoit un certain nombre d'actions qui sont montées à plusieurs. Et pof, c'est comme ça qu'on met en place, par exemple, la Maison des Femmes à Lyon, qui permet de prendre en charge, de manière totalement pluridisciplinaire, des femmes victimes de violences sexuelles. Et pas que sur le plan du soin, aussi sur l'accompagnement juridique, social, etc. Ça, c'est un produit du contrat local de santé et donc de cette approche aussi One Health. Et puis, le One Health, on se dit, il faut aussi agir sur les déterminants de santé. Les questions sociales, environnementales, ça semble évident, bien évidemment, mais les inégalités qui sont des déterminants de santé très très importants. Bref, donc One Health, on rencontre Olivier Hamon qui nous parle de santé commune et qui nous dit en fait ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, et comme tu dis très justement, il faut aussi fixer des priorités et continuer à interroger finalement ce concept One Health qui a des limites, ça c'est certain, qui nous a quand même fait pas mal progresser parce qu'il nous permet de mettre de la santé partout quand même, et ça c'est utile. Mais voilà, donc moi je voulais déjà remercier Olivier parce que c'est aussi pour nous en tant qu'élus locaux, un aiguillon qui nous dit mais non, en fait là vous êtes peut-être pas allé encore assez loin dans justement la construction de territoires robustes, il faut continuer à creuser.
Alors, et je voulais un peu sur ma fin moi, ouais. C'est-à-dire fixer des priorités.
Alors je voulais donner deux exemples qui me paraissent, je pense, je sais pas si ça illustre, mais en tout cas ça va dans le sens de ce que tu évoquais sur la question à la fois de la santé commune et de la robustesse. Tu parlais tout à l'heure de dépenses évitées. On le mesure que très rarement, ça, malheureusement. Mais moi, je pense à un calcul qui a été diffusé il y a quelques mois suite à une étude de Santé publique France qui dit la mauvaise qualité de l'air, la pollution atmosphérique en France coûte, tenez bien, attention, non, pas en mort, en argent, parce que ils l'ont monétisé, 17 milliards d'euros par an. La mauvaise qualité de l'air, c'est 17 milliards d'euros par an. Voilà une belle dépense à éviter. C'est-à-dire, plutôt que de soigner des gens pour des maladies pulmonaires ou générées par la mauvaise pollution, par la mauvaise qualité de l'air, parce que la pollution, elle crée des maladies, mais elle favorise aussi l'émergence de maladies. elle accélère l'émergence de certaines maladies. Il y a des gens qui pourraient ne pas être malades parce que leur métabolisme permet de résister, mais dans un environnement qui est pollué, eh bien la maladie va réussir à se développer parce que leur système immunitaire aura été affaibli, leur microbiote aura été transformé, etc. 17 milliards, voilà des belles dépenses à éviter quand même. Hein, je veux dire, dans un moment en plus où on cherche des économies pour résorber la dette, bref. Et l'autre exemple que je voulais partager ici, c'est, tu parlais des décideurs ou des faiseurs qui deviennent des facilitateurs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, à Lyon, lors de la saison des plantations, qui va bientôt s'ouvrir, parce qu'on attend la Sainte-Catherine, puisque la Sainte-Catherine, tout prend racine, vous savez. Et donc, on attend la Sainte-Catherine avec impatience pour commencer à planter massivement à Lyon. Mais il y a quelques années en arrière, on avait nos jardiniers qui venaient avec tout leur matériel, qui arrivaient, qui plantaient, qui entretenaient tout le reste de l'année, tout allait bien. Là, aujourd'hui, partout où on peut encore s'améliorer, bien sûr, mais partout où on peut, en fait, on va faire les plantations avec les habitants, avec les premiers usagers des quartiers, des micro-quartiers, de la rue, où on va faire les plantations. Donc forcément, par exemple, quand on fait une rue aux enfants et que donc on a piétonnisé et qu'on fait des plantations devant l'école, on fait les plantations avec les enfants. Et derrière, où est-ce que ça crée de la robustesse ? C'est qu'en fait, il n'y a plus personne qui piétine les espaces verts et surtout pas les enfants eux-mêmes puisqu'ils les ont plantés. Ils ne vont pas être idiots, les enfants sont très intelligents, ils ne vont pas piétiner la fleur qu'ils ont plantée quelques semaines auparavant. Et donc, ça crée de l'adhésion et ça crée, on est pour moi complètement dans cette idée de la robustesse. Mais pour ça, effectivement, il faut faire avec. Mais pourquoi je parlais de nos jardiniers, c'est que c'est pas la même chose d'être jardinier, d'être expert en botanique, de connaître toutes les plantes, leur cycle de vie, que d'être un animateur, je sais pas comment on pourrait appeler, un animateur botanique ou un animateur jardinier. C'est pas la même chose. Encadrer des enfants ou des adultes qui vont planter, c'est pas planter soi-même. C'est un autre métier, c'est un autre rapport aussi aux habitantes et aux habitants. On les a amené à faire ça, c'est pas simple parce que c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, un changement culturel, y compris dans l'exercice d'une profession qui aujourd'hui, a été définie comme telle. Et là, on est en train de leur demander autre chose. Heureusement, ça marche et ils en sont très contents parce qu'ils voient aussi finalement que leur savoir-faire, en les partageant, prennent de la valeur. Alors que quand on garde pour soi un savoir-faire, il n'est pas aussi valorisé, il n'est pas aussi reconnu.
Merci pour ce témoignage, Grégory Doucet, maire de Lyon. Alors, on le voit dans cet exemple, et puis Olivier Amand en parle, la robustesse, ça suppose de la coopération. Et là, on va faire un exercice coopératif. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir circuler avec les micros, donc vous allez devoir faire circuler les micros vous-même. Et résister à la tentation, puisque vous l'avez, de le prendre pour poser votre question alors que ce n'est pas à vous. Donc on va faire cet exercice-là. On prend quelques questions, commentaires dans la salle. Qui veut ? Je prends un des deux micros. Là et puis après là. Non, vas-y.
Bonjour, merci beaucoup. Julien Perdreja, Fabrique des Transitions. Je voulais savoir comment on évalue la robustesse, si vous aviez des propositions là-dessus.
On va prendre plusieurs questions, allez-y.
D'accord, parce que ma question n'a rien à voir. Mais je rebondis sur la dernière chose que vous avez dit en citant Michel Serres à propos des lieux, et je profite de la présence du maire de Lyon, qui est la deuxième ou la troisième métropole de France.
Plus près le micro.
Métropole, la troisième ville.
Voilà.
Plus près le micro.
Tous les territoires peuvent-ils être robustes ? Est-ce que à un moment, il n'y a pas une certaine naïveté à se dire les métropoles aujourd'hui peuvent encore être robustes avec 3 jours d'autonomie alimentaire, 6 heures d'autonomie énergétique, des températures annoncées à 50 degrés dans certaines métropoles. Est-ce que tous les territoires peuvent être robustes et est-ce que ce n'est pas un peu tard pour les métropoles ?
Bon, ça fait 2 questions copieuses, donc on va peut-être déjà répondre à ça. Allez-y, je sais pas
Alors, je pars avec l'évaluation de la robustesse. On sait très bien évaluer la performance. Hein. On a plein d'indicateurs de performance, donc ça, on sait très très bien faire. Hein. Les KPI dans l'industrie, les Key Performance Indicators, les notes à l'école, hein. Enfin, ça démarre tout très très tôt. Hein. Alors, il y a un adage zen, hein. Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Ouais, c'est ça que ça permet. Un indicateur de performance, c'est des œillères. Ça permet de voir l'indicateur et d'oublier tout le reste. Donc, évidemment que l'indicateur de performance, ça ne va pas être ce qui va nous aider pour faire de la robustesse. Hein. On va plutôt s'en détourner. Il faut les mettre au second rang. Donc, ce qu'on fait en premier, c'est un stress test. Le stress test, c'est un outil dynamique adapté à un monde dynamique, un monde instable, en fluctuation. Et donc, ça veut dire, vous prenez votre organisation, votre territoire, votre association, votre entreprise, et vous faites fluctuer un des paramètres. Donc, par exemple, l'année prochaine, le pétrole est deux fois plus cher. L'année prochaine, la Russie envahit les pays baltes. Dans trois mois, la Chine envahit le Taïwan. Il y a une coupure Internet pendant six mois. Enfin, ouais, vous imaginez des fluctuations comme ça, et vous allez faire deux choses. Réfléchir aux conséquences dans le territoire. Qu'est-ce que ça provoque, les effets dominos? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour que... Ça, c'est de la santé préventive, hein, ça. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour que, quand ça arrive, on ait suffisamment de marge de manœuvre pour encaisser le choc? Et donc ça, c'est tout simple. Alors, à Lyon, ce qui est bien, c'est que la métropole de Lyon a développé un outil qui s'appelle Tumult, et qui est un jeu, qui est un stress test à destination des entreprises. Et c'est très symbolique, d'ailleurs, du basculement de la performance à la robustesse, puisque avant, les territoires, les métropoles notamment, voulaient attirer le maximum d'entreprises, stratégie de performance, du toujours plus, sauf que ça fait beaucoup de pollution, de la casse sociale, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que des métropoles, pas toutes, mais des métropoles de plus en plus nombreuses, veulent renforcer le tissu d'entreprise existant. Ben, on a basculé de la performance à la robustesse. En fait, quand on a cette lentille, on la voit partout après. Hein. Enfin, c'est un peu là. Voilà, le stress test, en tout cas, c'est un premier levier. Et puis, peut-être, je passe le micro après. Sur les territoires, est-ce que tous les territoires peuvent être robustes? Alors, en fait, c'est oui. Tous les territoires vont être robustes. Et il faut plutôt penser la robustesse comme quelque chose qui est multi-échelle. Bah, par exemple, si je vais prendre l'exemple de Lyon, c'est pratique. Je suis aussi lyonnais, hein, donc il y a un petit biais quand même sur cette table ronde. Donc, si on veut, donc Lyon va être la ville la plus chaude de France, voire même, c'est un des territoires qui va être très très chaud. On va avoir le climat d'Alger dans pas si longtemps. Donc, on peut imaginer faire une robustesse locale. C'est-à-dire en disant, on va arrêter de construire des appartements qui ne font que 2,5 mètres de hauteur. Il va falloir faire 2,8 mètres pour avoir un espace pour brasser de l'air. Donc, ça, c'est plutôt de l'architecture, des appartements traversants, donc tout ça, ça fait partie de la conception, mais ça ne suffit pas, parce qu'un appartement qui est robuste dans un territoire où il fait trop chaud, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui a été imaginé? Le fameux climatiseur naturel A dans l'Est lyonnais, donc transformer tout l'Est lyonnais en une forme d'agroforesterie, un arc d'agroforesterie, l'air chaud se refroidit, et là, ça permet d'avoir une métropole vivable. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que la robustesse, c'est à l'échelle d'un appartement, d'un territoire, et puis évidemment au niveau de l'État, de l'Europe. En fait, ce qu'il faut voir là, c'est que c'est plutôt, faut penser côte de maille. La robustesse, ou cellule, hein, comme un être vivant. La robustesse d'un être vivant, c'est parce qu'on est constitué de cellules qui sont toutes robustes. C'est que je peux prélever une cellule de votre corps et je la cultiverai en laboratoire, elle sera viable. Alors, dans des conditions, une fenêtre de viabilité qui sera quand même très petite, mais elle a quand même une part de robustesse. Ce qui fait qu'elle est vraiment robuste, c'est qu'elle interagit avec d'autres cellules qui sont elles-mêmes robustes. Et donc c'est là où ça devient très pertinent, cette histoire de robustesse multi-échelle, c'est qu'en fait il faut non seulement prendre soin de sa robustesse, mais prendre soin de la robustesse des autres. Donc le jour où une métropole a un problème, elle pourra bénéficier de la robustesse de son territoire. Si elle fait que de la robustesse pour elle-même, ça ne marchera pas. Donc en fait c'est incroyable, hein, mais il faut être robuste pour les autres sans leur dire. En fait, c'est quasiment parce que chacun doit faire sa robustesse. Vous voyez, c'est les stocks masqués, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est quand même c'est compliqué, hein, dans notre culture aujourd'hui. On veut au contraire tout optimiser. Si on optimise, si vous voulez, un arbre qui optimiserait son automne lâcherait juste le nombre de feuilles qu'il lui faut pour qu'il y ait du substrat dans son sol, quoi. Il lâcherait beaucoup moins de feuilles. Hein. Donc les êtres vivants n'optimisent pas. C'est un don, en fait. Ils prennent vraiment soin très largement de leur robustesse des autres territoires.
Merci.
Le travail sur la culture du risque, qui rejoint ce que disait Olivier sur l'outil Tumult, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis le début du mandat. Je vais vous donner un exemple pour illustrer le fait que cette culture du risque, qui est pour moi, qui va avec la recherche de robustesse, elle est pas encore très diffuse. Donc on est au début du mandat, je vais voir la préfecture et je leur dis... qu'est-ce qui est prévu en cas d'accident nucléaire sur la centrale du Bugey, qui est la plus vieille centrale en activité aujourd'hui et qui est à 35 km à vol d'oiseau de Lyon. Mais 35 km, c'est juste au-dessus de du périmètre qui est défini comme le périmètre de surveillance, qui fait que la ville de Lyon n'est pas sollicitée, on ne lui demande pas son avis, elle n'est pas intégrée dans justement les fameuses stress tests que tu évoquais. C'est-à-dire qu'en gros, on ne s'est pas posé la question de comment est-ce que la ville de Lyon allait s'organiser en cas d'accident nucléaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais je pense qu'ici, je n'ai pas grand monde à convaincre sur les risques qui peuvent exister. Mais quand même, s'il en reste à quelques-uns, il faut savoir que la centrale du budget, non seulement c'est la plus ancienne, mais qu'en plus, elle est sur la trajectoire d'évacuation des eaux du barrage de Vouglan. Alors, ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais si le barrage saute, toute l'eau part sur la centrale. Et on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a jamais eu de stress test, pour le coup. Donc, ça veut dire que si on veut s'assurer de la robustesse de cet équipement nucléaire-là, il faut quand même qu'on s'assure de la robustesse d'un autre équipement. Bon, je veux dire, un avion piloté par des débiles qui se crashent sur le barrage, ça s'est déjà vu dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, d'un barrage ou d'un autre. Donc, il faut penser à tout comme ça, enfin, à tous les risques. Voilà. Et donc, j'évoque ça à la préfecture, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben c'est très bien, on doit distribuer des pastilles d'iode à tout le monde. Je dis, mais il y a 520 000 habitants quand même. On doit distribuer des pastilles d'iode à tout le monde en 12 heures. Donc maintenant, voilà, vous avez 2 heures pour me trouver une solution pour distribuer 520 000 pastilles d'iode à 12 heures. En 12 heures. En fait, ça n'existe pas. La solution n'existe pas. Et j'ai bataillé pendant plusieurs années pour obtenir qu'on fasse un test en situation réelle de distribution de pastilles d'iode. On ne l'a pas encore fait, parce que ça traîne des pieds un peu partout, mais pour moi, au-delà du test en lui-même, c'est pour montrer qu'il faut qu'on solidifie notre capacité à réagir. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette capacité, elle n'existe pas ? Parce qu'on n'a pas de culture du risque. On ne pense pas à toutes les éventualités possibles qui, effectivement, nous rendent robustes.
Voilà. Et donc, la question, c'était, est-ce qu'il y a des territoires sur lesquels l'idée de robustesse...
Mais bien sûr, en travaillant sur la culture du risque, on va dans le sens d'une plus grande robustesse. La question, c'est d'où on part et jusqu'à quel niveau de robustesse il faut aller. Et là, c'est plus à Olivier de nous donner des outils aussi, de nous éclairer là-dessus. Mais je peux vous dire qu'à Lyon, effectivement, on part d'assez loin parce qu'en plus, on a, comme le disait Olivier, on a la chance, entre guillemets, d'être sur une géographie qui nous expose à un réchauffement climatique beaucoup plus intense. On a déjà pris plus de 2,4 degrés en moyenne depuis 1960 à Lyon. Donc, y a des images de Lyon des années du début du XXe siècle où il y a des gens qui font du patin à glace sur la Saône ou sur le lac du Parc de la Tête d'Or. Moi, j'ai jamais vu le lac du Parc de la Tête d'Or gelé, encore moins la Saône. Voilà. Depuis que je suis lyonnais. Bref, donc, en fait, on sait qu'il y a des changements qui sont là. Comment est-ce qu'on adapte la ville ? Alors, il faut adapter le grand territoire, Olivier, tu l'as dit, mais comment est-ce qu'on adapte la ville ? Par exemple, je ne vais pas vous parler de la plantation d'arbres, bien sûr, c'est une évidence, mais en faisant la ville de Lyon plus piétonne qu'elle n'est aujourd'hui, on développe des espaces piétons. En fait, ça veut dire que demain, s'il y a un accident, si effectivement le pétrole a vu son prix doubler et que plus personne ne peut rouler en voiture, comment on fait pour se déplacer ? Si la ville, elle n'a pas été conçue premièrement pour le mode de déplacement le plus simple, qui est la marche à pied, quoi. Un grand nombre de personnes pourront continuer à marcher à pied. Par contre, peut-être que demain, on pourra plus se déplacer en voiture parce qu'on pourra plus avoir accès à du carburant. Voilà. Et la question que vous posiez, l'exemple que vous posiez sur la table, qui est celui de l'accès à l'alimentation, il est fondamental. On y travaille d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on développe des circuits courts d'abord. Parce qu'on a plus de chances de continuer à avoir accès à une alimentation si elle ne vient pas trop loin. C'est sûr que si toutes nos filières sont pensées, organisées, structurées, qu'avec des produits qui viennent de l'autre bout de la France, de l'Europe ou du monde, du jour au lendemain, c'est beaucoup plus difficile de se retourner. Alors que si on a déjà beaucoup structuré des filières et qu'on a des agriculteurs et des agricultrices qui sont déjà sur des productions pour le territoire, pas pour l'exportation, mais pour le territoire, ça veut dire qu'on est plus en capacité de réagir à éventuellement un très gros stress sur l'accès à l'alimentation.
Donc je vais redonner la parole à la salle. Donc on va faire un homme, une femme. Donc il y a un monsieur tout au fond là-bas.
Et je vais en profiter pour ajouter un petit mot. mais c'est dans cette série-là. C'est pas ça. Mais en fait, quand on bascule de la performance à la robustesse, on bascule aussi de la gestion des risques à réenchanter le risque. En fait, on se place dans les conditions où le risque n'est plus un problème. Et en fait, c'est très joyeux. Voilà, la ville de Piétonnière, la ville du quart d'heure, c'est un moment décolonial où le village devient un modèle pour la ville. Alors qu'avant, la ville était un modèle pour le village. Hein. On est vraiment dans une inversion. Et ça, on a réenchanté le risque. Je m'arrête.
Bonjour, merci beaucoup. Sylvain Matteau, pépiniériste en Argonne. Ah, c'est loin d'ici, c'est pas le même territoire. Je voudrais parler à monsieur le maire de Lyon. Vous avez dit, vous avez fait deux, trois trucs en tant que professionnel de la plantation des arbres et de la multiplication. J'ai pas très bien saisi. Alors, ce qui est très bien, c'est que vous allez former des animateurs pour planter des arbres. Mais juste après, vous avez parlé de la transmission des savoir-faire. Et comme s'il y a quelque chose qui vous aviez posé problème. Alors moi, de mon côté, je transmets mes savoir-faire. Il y a un peu plus de 40 ans que je plante des arbres et que j'en multiplie. J'en suis au stade où je transmets mes savoir-faire. Et je veux bien former aussi dans mon coin, en Meuse, des gens qui vont apprendre à planter. Mais si on n'a pas des gens qui n'ont eu simplement que de la sensibilisation à l'environnement, ça ne suffira pas. Il faut bien intégrer tout le cycle du vivant, tout le mouvement du vivant, et ça se fait pas en 5 minutes. Alors, bravo pour former des gens qui vont enseigner ou qui vont montrer comment un arbre réagit. Mais il y a un temps à faire. Les gens qui font de la plantation, de la multiplication, qui sont vraiment dans le secteur primaire, c'est pas tout à fait la même chose que les gens qui enseignent. C'est même pas le même secteur. Mais pourquoi pas, et bon courage.
C'est tout à fait, ça fait tout à fait écho à la table ronde d'avant où vous étiez aussi, je crois, où oui. C'est la question du temps de la transmission. Qui veut prendre la parole? Voilà, oui, s'il vous plaît.
Merci.
Bonjour, merci. Merci beaucoup pour vos propos, c'est vraiment enthousiasmant. Deux remarques, vous vous appuyez beaucoup sur le modèle de la nature pour sa robustesse et notamment des arbres. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'accélération quand même? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les arbres et la nature en général a quand même du mal à résister, en vérité, à la pression climatique qui s'accélère. Enfin, je vous avais vu les forêts cette année dans le sud de la France, c'était quand même extrêmement difficile. Donc ce modèle n'a-t-il pas ses limites? Et la deuxième question concerne la qualité de l'air. Il y a des économies à faire avec un air de qualité, c'est sûr, mais il y a aussi des manques à gagner pour beaucoup d'acteurs dans la lutte contre la pollution de l'air. Donc comment on résout cette copie?
Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, pardon, Emmanuel de Lille.
Merci. À côté de toi.
Bonjour, Siamak de Strasbourg, élu local. Moi, j'avais une question sur les mots, sur la notion de l'urgence, qui fait aussi parfois, en tout cas, écho au culte de la performance. On a été beaucoup de municipalités élues avec l'urgence sociale en tête. Et en fait, on se rend compte aussi qu'à être autant dans la vitesse de la transformation qu'il faut, l'urgence qu'il faut pour le faire, on est aussi parfois dans cette performance. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas se délester de cette notion?
Merci. Alors, je vous redonne la parole.
Je démarre. Alors oui, donc sur la pépinière et l'apprentissage, en fait, quand on est dans la performance, on veut apprendre. Et en fait, on veut être exhaustif dans sa compréhension du monde. Et donc, ce que ça crée surtout, ça peut créer de la compétition, etc. En fait, dans le monde de la robustesse, on ne cherche plus tellement à apprendre, on cherche surtout à apprendre à apprendre. C'est un peu méta, c'est un peu systémique. Et qu'en fait, on va faire des classes où le but, ce n'est plus l'exhaustivité, mais c'est de mettre en mouvement les citoyens. Et donc, en fait, si on commence à avoir le goût pour planter des arbres, hein, par exemple, eh ben, en fait, après, on va avoir envie de se former. Donc, en fait, c'est très sous-optimal. Hein, ça, c'est on commence par de la frustration, parce qu'on n'a pas tout vu dans le cours, mais parce qu'on justement, on n'a pas tout vu, parce qu'on a aimé, parce qu'on a eu un lien émotionnel, on a envie d'apprendre. Et donc, en fait, on se met en mouvement parce qu'on est dans une école où on apprend à apprendre. Ça, ce sont des écoles de la coopération. Ce n'est pas des écoles exhaustives, c'est des écoles où les professeurs posent des questions, mais n'apportent pas les réponses. Et donc, c'est très mobilisant. Hein. Enfin, c'est l'école Freinet, Montessori, Strumberg, il y a toute une galaxie hein, comme ça. Donc, en fait, ça ne s'oppose pas. C'est juste qu'en fait, il faut des savoir-faire absolument ancrés, situés dans un territoire. Mais l'exhaustivité du savoir-faire ne fait pas de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vraiment apprendre à apprendre aussi. Enfin, voilà, c'est une articulation entre les deux. L'accélération du vivant, je fais des réponses courtes, hein, on n'a plus beaucoup de temps, donc réponse courte. Donc en effet, hein, le vivant, là on accélère tellement, hein, juste pour donner le fameux chiffre, hein, en 50 ans on a perdu 70% des animaux vertébrés sauvages sur les continents. La comparaison, hein, c'est les dinosaures, ils ont mis 33 000 ans à disparaître. Donc on va 3 ordres de grandeur plus vite. C'est ça, hein, qui est vraiment important pour la biodiversité, c'est la vitesse de l'effondrement qui est absolument dément, quoi. Donc ça veut dire en effet qu'il y a un seuil de robustesse et quand on le passe, ben, on est plus robuste, on casse. Alors c'est là où en fait je n'utilise pas le mot de résilience parce que pour moi il n'est pas très utile ce mot-là. C'est qu'en fait quand on a passé le seuil de robustesse, eh ben, on se transforme. On ne veut surtout pas revenir au monde d'avant. On veut juste changer de monde. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, par exemple, des arbres qui meurent, parce qu'ils ont des stocks dans leur tronc, même s'ils sont vraiment, on fait une recépée, hein, complètement coupés, quoi, voilà, il reste plus rien, y a quand même encore des racines, il y a encore des stocks, il y a des sucres, hein, dans le tronc, hein, qui paraît tout mort comme ça, mais pourtant, il y a encore des cellules vivantes qui peuvent régénérer des bourgeons et refaire, refaire des tiges, des feuilles. Alors, il n'aura pas la même tête. C'est un arbre qui n'aura plus du tout la même tête qu'avant, hein. Il se sera transformé. Mais c'est sa robustesse préliminaire qui lui a permis de se transformer. Sans robustesse, pas de transformation. C'est un potentiel. Et donc en fait, c'est ce qui se passe chez nous, là, hein. Dans le monde vivant, on commence à voir des adaptations incroyables, hein, des animaux diurnes qui deviennent nocturnes, parce que c'est le seul espace qu'on leur laisse, nous, les humains. Et pareil pour les plantes. Donc en fait, le vivant, quand il atteint son seuil de robustesse, et quand ça casse, il se transforme. Et d'ailleurs, c'est même l'évolution darwinienne, c'est exactement ça. Hein. Il y a des impasses évolutives, mais en fait, ça, c'est les espèces qui se sont transformées. L'urgence, en effet, c'est le piège, hein, de la performance. Quand on est dans l'urgence, que ce soit une urgence climatique, économique, sociale, le piège performant, c'est d'accélérer. Donc vous imaginez, hein, vous êtes le hamster dans la roue, et il y a urgence, vous allez courir encore plus vite. Voilà, donc c'est Ivan Illich, hein, qui disait « La médecine, c'est l'alibi d'une société pathogène ». Bah, c'est ça, en fait. C'est que la médecine, d'un certain point de vue, hein, nous permet d'accélérer. En fait, les anxiolytiques permettent de bien profiter de son burn-out. Ouais, parce qu'on y va, quoi. Voilà, plutôt s'attaquer à la société pathogène, quoi. Hein. Et donc, si... c'est très simple. Hein, nous sommes tous des êtres vivants à 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. X, Y, Z, T. Hein, si, vous voulez. Bah, si on manque de temps, il nous reste l'espace. Et donc c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on manque de temps, quand il y a urgence, il faut se relier à son espace, à son territoire. En fait, c'est exactement ce que font les êtres vivants. Les êtres vivants, quand il y a urgence, ils n'accélèrent pas. Ils font des symbioses. Ils densifient leurs interactions avec leur territoire. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la coopération territoriale qui crée du temps long. C'est quand on se reconnecte à son espace qu'on crée du temps long. Et donc le piège performant, c'est d'accélérer et donc de réduire encore plus le temps qui nous reste. Donc je le dis de façon très transversale comme ça, mais en fait, il y a plein d'exemples. Hein. Là aussi, on a déjà basculé dans ce monde-là. Hein. Enfin, les coopératives, les SCOP, l'agroécologie, toujours pareil, hein, les échanges de semences entre paysans, les échanges de pratiques, les écoles de la coopération, etc. Enfin, il y a toute une galaxie de solutions qui sont des symbioses territoriales. Et c'est toujours pareil, c'est une question de robustesse. C'est que si on est extraterrestre, si on ne se préoccupe pas de la robustesse de son territoire, ce ne sera pas viable. Ouais. Donc c'est l'ancrage territorial qui est une clé, en tout cas une clé importante.
Juste pour repréciser sur la question des jardiniers qui deviennent animateurs, parce que je veux pas être mal compris, mais je faisais simplement état de l'évolution des métiers. Du jardinier qui vient par lui-même planter et qui ne se préoccupe pas de comment c'est perçu autour de lui, qui aujourd'hui devient animateur, c'est-à-dire que c'est la même personne, toujours dans la direction de la biodiversité et de la nature en ville de la ville de Lyon, et bien cette personne, on ne lui demande pas simplement de planter, on lui demande de faire avec. Donc il va être avec un groupe d'habitants ou avec un groupe d'enfants. Et du coup, il va y avoir transmission de savoir. D'abord parce que, comme tu le disais, Olivier, il y a un moment vécu ensemble, donc il y a une émotion. Et la transmission de savoir, nos jardiniers ne sont pas en train de donner des cours de botanique à tous les enfants de la ville, quand bien même, c'est pas ça qu'on leur demande. Mais ils vont transmettre ici et là quelques petits savoirs. Ils vont dire, ah bah tiens, regarde, la feuille de romarin, là, quand tu la prends, elle sent bon. Ah, paf, un tout petit savoir. c'est vraiment microscopique. Mais un enfant qui n'avait jamais touché une plante de sa vie avant, pour lui, c'est déjà un premier contact avec la nature. C'est déjà quelque chose qui va lui donner envie. Et surtout, au-delà du fait que ça va lui donner envie d'apprendre, comme tu le disais, Olivier, ça va aussi... ça va lui permettre de s'approprier ce qu'il a, enfin ce qu'il a fait, ce qui s'est produit là. Il a planté lui-même une petite pousse de romarin, grande comme ça, devant son école. Mais jamais, jamais il va aller la piétiner après, parce que c'est un truc qu'il a fait en plus avec ses camarades. Donc il a, pour lui, il voit la richesse que ça représente. Et donc, on le voit, les espaces de nature qu'on a établis devant les écoles, avec l'établissement des rues aux enfants, en fait, ils sont florissants. Ils sont pas piétinés par les enfants. Alors qu'au début, quand on a commencé à parler de tout ça, il y avait des parents ou des habitants qui disaient, mais non, vous voulez planter devant les écoles, les enfants vont tout piétiner, ça va jamais pousser, etc. Mais pas du tout. Les enfants sont hyper respectueux dès lors qu'on l'a fait avec eux. Voilà. Puis après, ça se transmet de génération en génération. Juste, je voulais répondre sur la question d'urgence parce que t'as raison. Mais il y a aussi, si je puis me permettre, une question un peu politique au sens de la stratégie politique. C'est vrai que, on était dans un moment en 2020 où il fallait parler de l'urgence parce qu'on était dans un... Il fallait qu'on secoue un peu le cocotier, qu'on capte l'attention, qu'on dise aux gens hey, réveillez-vous là. Il faut changer justement de paradigme. Et parler de l'urgence, c'était une façon de commencer à installer. Alors, je ne sais pas si c'est que du vocabulaire et aussi de la grammaire, mais il fallait changer d'approche. Maintenant, pour moi, ce n'est plus du tout ça. Continuer à parler d'urgence, alors qu'en plus, à Strasbourg comme à Lyon, ça fait 6 ans qu'on est en responsabilité, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, ils nous parlaient d'urgence, on est encore dans l'urgence, enfin, à quoi ça sert de les avoir mis au pouvoir bon. Non, je pense que, de toute façon, la question, elle n'est pas celle de l'urgence aujourd'hui climatique. En fait, je parle là, encore une fois, politiquement. Dans la réalité, bien sûr qu'elle est toujours là. Mais la question, c'est ce que tu évoquais, Olivier. Aujourd'hui, ce qui va être pour moi... L'univers des problématiques clés pour la prochaine élection, les prochaines élections municipales, c'est toutes les questions sociales. C'est la justice sociale, c'est la cohésion sociale, c'est le lien, c'est la coopération. C'est ça qui est au cœur, en plus, de ce que nous vivons. Aujourd'hui, on a les réponses. On sait qu'il faut des grands espaces végétalisés pour rafraîchir les villes, en plus de planter dans les villes. On sait tout ça. On a les solutions techniques. Et une fois qu'on est en responsabilité, on peut les déployer. Non, mais comment est-ce que aujourd'hui on va préparer ces élections? Enfin, je le dis ici, là, c'est pas de la science absolue ce que je dis, mais moi je suis convaincu que c'est d'abord la justice sociale. Alors j'utilise un terme un peu galvaudé, mais en gros derrière la justice sociale, c'est les questions de robustesse, de coopération, d'interaction qui sont au cœur en fait des attentes des gens. C'est ça qu'ils veulent.
C'est super parce qu'on reboucle du coup sur la question posée au départ, qui est en quoi la robustesse peut être justement le socle d'un nouveau contrat social. Un mot de la fin, Olivier.
Un mot de la fin. Alors, j'ai envie de dire 3 mots, en fait. Je vais essayer d'être court. Parce que Grégory en parle très bien. Dans le monde de la performance, on cherche les solutions clés en main. Dans le monde de la robustesse, on cherche les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Donc, c'est toujours un billard à 3 bandes. Ben voilà, par exemple, on va replanter avec des enfants. Ce qui est certainement moins clé en main que d'avoir un professionnel qui va planter, quoi. Ben, mais par contre, la solution, elle émerge, elle est robuste. Elle va se maintenir. Le deuxième point, c'est dans la santé commune, santé du naturel, santé sociale, santé des humains, la partie la plus importante, c'est la santé sociale. C'est que la santé des milieux naturels, c'est la base, hein. C'est ça qui va faire qu'on est viable sur son territoire. La partie où nous, on a un levier, nous les humains, nous les sociétés humaines, c'est la santé sociale. Et donc si on rate la case santé sociale, c'est de la pensée magique. Prendre soin des milieux naturels, ça ne va pas faire de la santé des humains. Ça fait de la santé des humains seulement si on prend soin de la santé sociale et des organisations sociales. Et peut-être le dernier petit point, je vais revenir sur le mot de santé, santé des jeunes notamment. Là, on a en fait un enjeu énorme, santé des adolescents et des jeunes adultes notamment, qui sont à qui on dit, hein, bah, comme je l'ai fait d'ailleurs, hein, quand le 21e siècle sera très fluctuant, très turbulent, voilà, on va leur dire ouais, votre 21e siècle il va être pourri, quoi. Et donc, il faut faire des efforts. Mais là, ils démissionnent, ils désertent. Et moi, le premier. Enfin, si on me disait ça, je déserte tout de suite, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, en fait, alors, voilà, un discours nettement plus engageant, c'est de dire oui, ça va tanguer très fort, mais ça va être l'occasion de tout changer. De tout changer. On va construire avec les fluctuations. Et en plus, les êtres vivants sont sur Terre pour nous dire que ça marche, que c'est autour de nous, c'est en nous, c'est dans notre corps. Nous aussi, on est robustes. Donc, c'est un message, enfin, pour moi, de santé publique. On a une épidémie de dépression chez les jeunes. Enfin, il faut quand même s'en rendre compte que le burn-out, maintenant, c'est plus à 50 ans, hein, c'est à 20 ans. Donc, il faut quand même réaliser à quel point on a endommagé la population, les populations. Donc, la robustesse, c'est aussi de la santé publique, quoi. Voilà. C'est un message engageant et qui crée un monde viable. Voilà.
Merci. C'est super de finir un échange en se disant qu'on a envie de connaître la suite. Merci beaucoup à Grégory Doucet et à Olivier Hamand. On est sur un format d'une heure très contraint. Merci de vous être prêté au jeu. Et à plus tard pour des discussions. Rendez-vous aux écuries pour prolonger ces discussions. Merci.